Chers auditeurs, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Bienvenue dans votre émission radiophonique quotidienne de débat et d'échange sur des sujets d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Vous suivez nos programmes grâce à un réseau dynamique de 47 radios partenaires qui diffusent nos programmes dans toutes les 8 régions du Niger. Notre thème de ce soir est la situation des déplacés internes au Niger, quelle assistance et protection juridique pour un meilleur respect de leurs droits. Le Niger dispose depuis bientôt 3 ans d'une loi visant à prendre en compte les droits de toutes les personnes déplacées internes de son territoire. Il s'agit de la loi numéro 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes. Une loi qui répond au principe directeur des Nations Unies de 1998 relatif au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, suivant la résolution 1998/50 du 17 avril 1998 de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Dans la première partie de ce forum, nous verrons d'abord ce que prévoient les textes en vigueur sur la protection et l'assistance des personnes déplacées au Niger. Dans la deuxième partie, nous ferons un état des lieux de la situation des personnes déplacées au Niger. Et dans la troisième et dernière partie de ce forum, nous tenterons de voir avec nos invités comment atténuer l'ampleur des violations des droits humains dans les situations de déplacement interne forcé au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Alfred Goubagué. Il est juriste, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, le RASAPRES DIH. Président, bonsoir.
Bonsoir, M. Michel.
Notre deuxième invité est M. Barry Mamanlawal. Il est magistrat. M. Barry, bonsoir.
Bonsoir.
À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Commençons par la première partie de ce forum pour d'abord comprendre ce que les textes en vigueur prévoient sur la protection et l'assistance des personnes déplacées au Niger. D'abord, M. Alfred Goubagué, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, RASAPRES DIH. Quelle est la définition juridique qu'on peut donner à une personne déplacée interne dans un pays?
Je voudrais une fois de plus saisir cette opportunité pour remercier le studio Kalangou qui nous donne cette opportunité de parler sur des thématiques aussi importantes que celles relatives à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes. Donc, vous l'avez dit lors de votre introduction, la loi 2018-74 du 10 décembre 2018 a effectivement donné la définition des personnes déplacées internes. C'est en ce sens que l'article 2 de cette loi, sur l'alinéa 1er, dispose que les personnes, ou bien définit les personnes déplacées internes comme étant des personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou leur lieu habituel de résidence, en particulier après ou afin d'éviter les effets des conflits, des situations de violence généralisées, des violations des droits de l'homme et ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et qui n'ont pas traversé les frontières territoriales du Niger. C'est important parce que bien souvent, les gens ont tendance à confondre les personnes déplacées internes et les réfugiés.
Les réfugiés viennent d'autres pays.
D'autres pays, exactement. Donc cette loi a pris le soin de préciser et de lever toute équivoque.
Si un citoyen quitte Niamey pour aller à Dosso et se retrouve là-bas, sous le coup des contraintes, on va parler de déplacement.
Déplacement, oui, et ça non, c'est le déplacement interne et de réfugié. Par contre, si il arrive jusqu'à Diffa, traverse la frontière et se retrouve au Tchad, par exemple, là, il devient un réfugié. Donc, c'est une précision importante qu'il faut faire. Mais aussi, il faut faire une mention spéciale par rapport à cette définition-là. Et c'est cela qui nous intéresse quelque part, puisque c'est l'actualité du pays. Vous savez, depuis un certain temps, notre pays fait face à des actions récurrentes des groupes armés non étatiques. Et ces actions des groupes armés non étatiques engendrent justement le déplacement des personnes. Mm-hmm. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'actualité. Mm-hmm. Et donc, dans le cadre de ces actions de ces groupes armés, beaucoup de personnes sont appelées à fuir leur village, mm-hmm. à la quête de la survie pour sauver leur vie. Souvent, mm-hmm. vous n'avez même pas le temps de vous apprêter. Mm-hmm. Vous êtes obligé de chercher un autre village où il y a plus de sécurité mm-hmm. pour vous y installer. Mm-hmm. Donc, c'est autant de facteurs. Et cette loi nous a donné, en dehors de la question des conflits armés qui est d'actualité, mm-hmm. celle aussi des catastrophes naturelles, comme c'est le cas actuellement, mm-hmm. des inondations. Donc les inondations peuvent également être des facteurs mm-hmm. du déplacement des personnes. Et je crois que vous avez suivi l'actualité l'année passée, mm-hmm. avec les inondations. Beaucoup étaient obligés de quitter Haroubanda, d'autres les bagages sur la tête. Mm-hmm. Donc vous voyez, c'est autant de facteurs, les conflits armés, les catastrophes naturelles, ou bien même les situations créées par l'homme, mm-hmm. au sens de cette loi, peuvent être des facteurs qui peuvent engendrer le déplacement des populations d'un secteur à un autre. Mais retenons-le, comme on l'a dit tout à l'heure, que cela soit circonscrit à l'intérieur mm-hmm. du territoire national.
Ça veut dire qu'on ne peut pas être réfugié à l'intérieur de son pays.
C'est pas possible.
On est déplacé.
Voilà.
On est PDI, donc personne déplacée interne. Voilà. C'est cela, vous appelez PDI. Merci beaucoup, M. Alfred Goubadje. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, président du Raza Press DHDH. M. Barry Mamman, en dehors de la loi qu'il venait de citer, il s'agit de la loi numéro 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l'assistance des personnes déplacées internes. Nous avons aussi une grande convention qu'on cite souvent, c'est la convention de Kampala de 2009 sur les déplacés internes au sein d'un État. Et que dit cette convention? Est-ce qu'on a la même définition à partir de cette convention?
Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer sur vos ondes. C'est toujours un plaisir de répondre et de faire éclairer l'opinion sur des aspects juridiques très importants.
Merci beaucoup.
Merci. Cela dit, la convention de Kampala a été adoptée le 23 octobre 2009 et il convient de rappeler le contexte qui a guidé à l'adoption de cette convention. Mm-hmm. Comme Alfred l'a rappelé tout à l'heure, il y a une gravité de la situation des personnes déplacées qui constitue une source d'instabilité et de tension continuelle pour mm-hmm. l'ensemble des États africains. Mm-hmm. Un peu partout, il suffit de regarder, de jeter le regard à côté, au Mali, au Burkina Faso, au Niger également, mm-hmm. dans les régions du Grand Lac. Vous voyez, ça cause beaucoup de problèmes liés soit aux catastrophes naturelles ou aux conflits armés. Mm-hmm. Donc la souffrance et la situation de vulnérabilité spécifique de ces personnes est une grande préoccupation pour les États africains. Mm-hmm. Et n'oublions pas aussi qu'en Afrique, nous sommes unis par des liens forts, c'est-à-dire une coutume, une tradition africaine mm-hmm. qui sont liés à l'hospitalité, mm-hmm. parce qu'un peu partout on dit que l'Afrique est une terre d'hospitalité mm-hmm. pour les communautés locales et pour les personnes en détresse et à l'appui de ces communautés. Mm-hmm. Donc là, c'est un peu le contexte général qui a conduit à l'adoption de cette convention. C'est une convention de l'Union africaine,
bien sûr.
C'est-à-dire mm-hmm. donc applicable pour l'ensemble des pays mm-hmm. qui l'ont ratifiée. Mm-hmm. Donc la convention vise à apporter des solutions durables aux situations des personnes déplacées mm-hmm. en mettant en place un cadre juridique approprié mm-hmm. pour leur apporter une protection et assistance et aussi faire adopter des mesures afin d'éviter, comme l'a dit Alfred, et mettre fin au phénomène de déplacés internes, mm-hmm. qu'on appelle dans le jargon PDI, mm-hmm. par l'éradication de ces causes premières, particulièrement les conflits persistants et récurrents, je l'ai rappelé tantôt, mm-hmm. ainsi que le déplacement causé par les catastrophes naturelles qui ont un impact dévastateur sur la vie humaine, la paix, la stabilité, la sécurité et le développement. Mm-hmm. Donc, pour revenir à la définition, c'est la même définition qui a été reprise dans la loi. Mm-hmm. La différence se situe juste, je ne veux pas reprendre les termes, c'est toute mm-hmm. personne ou groupe de personnes ayant été forcée ou obligée de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisées, des violations des droits de l'homme et ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et qui n'ont pas traversé une frontière d'État internationalement reconnu.
Mm-hmm.
Comme Alfred l'a dit...
Le Niger, dans sa loi, n'a pas parlé d'État internationalement reconnu.
Oui, il a dit, non, le Niger ne peut pas dire d'État internationalement reconnu dans sa loi, parce que Niger, en tant que tel, est un État internationalement reconnu, donc qui bénéficie de la reconnaissance sur le plan international, qui est membre des Nations Unies. Donc, vous voyez, c'est en cela...
Merci à vous,
merci.
Monsieur le juge. Nous revenons à vous, Monsieur Alfred Goubagué, président du RazaPress DH. Quels sont alors les principaux droits des personnes déplacées en République du Niger, puisque ces déplacés, on l'a dit, ont des droits qu'il faut connaître et qu'il faut respecter?
Donc, quand on parcourt la loi 2018 dont nous avons parlé tantôt, au niveau de son chapitre 3, donc ce chapitre 3 nous parle de la protection des personnes déplacées internes. Donc la protection en soi est un droit qui est reconnu, le droit à la protection. C'est pourquoi l'intitulé de la loi même parle de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées internes. Au sens de cette loi, qu'est-ce qu'on entend par la protection? Donc le point 5 de cette loi nous dit clairement que la protection s'entend comme toute mesure juridique et humanitaire. La mesure juridique et humanitaire conforme aux lois de la République du Niger et qui est capable d'affaiblir et d'atténuer ou de faire disparaître les méfaits de la vulnérabilité causée par le déplacement préjudiciable à la dignité et aux droits de la personne humaine. Donc, c'est ça la protection. C'est cette mesure juridique ou humanitaire, juridique dans le sens de la réglementation, dans le sens de l'édiction des normes, afin de protéger ces personnes. Et d'autre part, humanitaire, qui peuvent s'entendre dans le sens de l'assistance, puisque les textes sont une bonne chose. Mais de l'autre côté aussi, il faut accompagner ces textes-là par des biens vitaux qui peuvent aider les PDI à faire face aux besoins quotidiens. Donc, en ce sens, le chapitre 3, comme je l'ai dit tantôt, a clairement défini le cadre de la protection où un certain nombre d'obligations qui constituent des droits pour les personnes déplacées internes. Donc, on peut citer... ces droits. Au niveau de l'article 10 de cette loi, il est dit que tout citoyen a le droit d'être protégé contre le déplacement arbitraire. Donc les PDI, d'abord, ne doivent pas se déplacer de force. Quand ces personnes se déplacent, c'est parce qu'il y a une cause qui les a contraints à se déplacer. Mais ce n'est pas qu'on les contraint, c'est-à-dire que l'État contraint ces personnes. Donc vous voyez ici, c'est un droit. Le fait de ne pas se déplacer, en fait, la liberté d'aller et de revenir est un droit qui est constitutionnellement garanti. Donc, une fois qu'on voit ces personnes se déplacer, c'est parce qu'il y a des situations qu'on a exposées tout à l'heure, des conflits, des innocents, etc. Mais ce n'est pas une main de l'homme, une volonté affichée qui les a contraints à se déplacer. Ça, c'est un point très important. D'autre part, au niveau de l'article 11, toute personne déplacée interne a le droit de chercher la sécurité sur toute autre partie du territoire de la République. Si vous estimez que dans ce village A, vous n'êtes pas en sécurité, comme le cas des conflits ou des inondations, et que vous pensez que c'est dans le village B que vous pouvez trouver sécurité, vous êtes libre d'y aller. Donc c'est en cela la substance de cet article 11. Et il continue cet article en disposant que la personne est libre d'aller et de revenir quand elle le veut. Donc au niveau de l'article 12, il est dit également que toute personne déplacée interne a le droit de se faire enregistrer individuellement par les autorités compétentes en vue du décompte du nombre des personnes déplacées internes vivant dans les sites ou en famille d'accueil, au fin de recevoir l'assistance sous toutes ses formes. Donc, se faire enregistrer, c'est d'abord un premier pas qui permet au gouvernement ou aux autorités compétentes de vous connaître. Et une fois que vous êtes recensé en tant que PDI, vous avez droit à l'assistance. C'est cet enregistrement-là qui est d'ailleurs un droit qui vous permet également, de l'autre côté, d'avoir droit à l'assistance humanitaire qui provient soit de l'État ou des partenaires.
C'est vrai, la loi a prévu la protection, mais dans un deuxième volet, l'assistance. Mais il y a quoi dans l'assistance, quand on parle d'assistance des personnes déplacées internes?
L'assistance, en fait, elle peut être sous plusieurs angles. Elle peut d'abord être une assistance, comme on l'a dit, juridique. Juridique dans quel sens? Dans le sens où il y a un certain nombre de normes, peut-être que les PDI ne connaissent pas, qu'il faut mettre en application pour leur assurer la protection prévue par la loi. Donc une assistance d'abord juridique, il y a également une assistance humanitaire. Et l'assistance humanitaire inclut, si vous voulez, la donation d'un certain nombre de biens indispensables à la survie. Quand par exemple vous avez des personnes qui ont quitté leur village, en quittant, peut-être elles ont tout laissé, elles n'ont rien. elles ont besoin de l'eau potable, elles ont besoin de la nourriture, des vêtements, elles ont besoin des latrines, elles ont besoin des tentes, des bâches. Donc vous voyez, l'assistance inclut beaucoup de choses. Il y a également la question de l'éducation, peut-être l'école pour les enfants, etc. Donc c'est tout un besoin en logistique, vraiment d'une grande... C'est pourquoi récemment, vous avez vu l'État avec ses partenaires, récemment avec les déplacés de Lanzourou. Ces personnes se sont retrouvées...
C'était dans la ville de Tillabéri.
La ville de Tillabéri, au niveau de l'arène, je pense. Donc, ces personnes se sont retrouvées. Il y a des inquiétudes quant à l'insalubrité, les conditions de vie, des maladies qui peuvent se propager. Et très rapidement, on a vu, l'aide a été acheminée à ces personnes. Des bouilloires, des nattes, etc., de la nourriture... Et d'autres même avaient projeté de leur apporter des tentes, etc. Donc, il y a un besoin en logistique énorme. C'est ça l'assistance auquel ces personnes ont droit. Mais il y a aussi un autre point qui est la sécurité. Vous savez, nous sommes dans un contexte sécuritaire très tendu, très difficile. Donc, ces personnes ont droit aussi à être protégées. C'est pourquoi récemment, si vous avez également suivi l'actualité, pour le cas des déplacés de Baroua à Diffa,
dans la région
de Diffa, le président de la République s'était déplacé. Et je pense qu'au niveau national et au niveau de la politique nationale, et même d'ailleurs les déplacés de Tillabéri à Anzou, donc on leur a promis des conditions de sécurité. Et c'était ça même, je pense, le gage qui leur a permis de retourner dans leur village. Parce qu'ils se sont dit, mais si on doit retourner dans le village, rester dans le village, cultiver nos terres, et qu'à tout moment on peut être vraiment surpris par des attaques, nous, ça ne vaut pas la peine qu'on retourne. Et je pense que l'État a pris l'engagement ferme d'assurer la sécurité de ces personnes dans ces localités. Donc, vous voyez, les besoins ou bien la protection dont on parle, elle est à une grande échelle. Elle inclut beaucoup de choses. Mais je voudrais terminer ce point en précisant un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État et qui constituent des droits pour les personnes déplacées internes. En ce sens, l'article 13 de cette loi dispose clairement que l'État, c'est important de retenir ce point, l'État assure la protection des personnes déplacées internes, assure leur accès aux services publics et aux ressources naturelles. L'État assure également la jouissance des droits sociaux, économiques et politiques aux personnes déplacées internes. Je vous prends un exemple tout banal.
Droit à l'éducation, à l'alimentation. Mais il arrive que l'État n'arrive pas à assurer cela.
Et c'est là un défi majeur pour l'État. C'est un défi. C'est pourquoi l'État, au sens de cette loi, a l'obligation de créer toutes les conditions pour assister ces personnes. Mais vous savez, les lois ou les textes sont une chose. Mais dans les faits également, il y a beaucoup de défis. Donc,
il arrive que l'État même ne se retrouve pas.
Je pense que c'est en sens que l'État seul ne peut pas faire tout le travail. Et c'est pourquoi l'existence de beaucoup d'organisations humanitaires qui interviennent, qui prêtent main forte à l'État afin de pouvoir vraiment faire face à ces situations. Donc, l'État assure l'accès aux déplacés internes, aux actes d'état civil. Souvent, quand vous quittez, vous laissez vos documents. Vous avez tout perdu. Et les enfants doivent s'inscrire à l'école, par exemple. Et pour s'inscrire à l'école, on a besoin des pièces d'état civil. Je parle sous le contrôle du juge. Souvent, vous tenez des audiences foraines pour délivrer ces pièces d'état civil. Donc, c'est la responsabilité de l'État de pouvoir fournir ces documents. Donc, il y a autant d'obligations si le temps où nous
devons continuer. Merci, on vous a bien compris. Les personnes déplacées internes ont donc des droits. Il faut rappeler justement que les définitions et les droits tels que vous les abordez sont au niveau de la loi numéro 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes en République du Niger. C'est donc une loi nationale. Nous avons également la convention de Kampala de 2009 qui traite aussi des droits des personnes déplacées à l'intérieur d'un pays. Monsieur Barry Momon, vous êtes magistrat. Que prévoit cette convention de Kampala par rapport aux droits des personnes déplacées? Et si on compare avec les droits tels que énumérés par Alfred Goubadje, quelle différence on peut constater? Ou bien on a les mêmes droits à ce niveau?
Merci. On a en principe les mêmes droits parce que la loi de 2018 incorpore déjà les grands principes de la convention de Kampala. Maintenant, au regard de cette convention, toute personne a le droit d'être protégée contre le déplacement arbitraire. Alfred l'a si bien dit. Mais la convention a précisé les différentes catégories, si vous voulez, de déplacements arbitraires interdits. Il s'agit des déplacements basés sur les politiques de discrimination raciale. La race d'abord, c'est qui est par exemple le cas de l'apartheid qui a eu lieu
en Afrique du Sud
entre-temps, ou autres pratiques similaires
visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population.
Par exemple, au Niger, on ne peut pas demander à des personnes d'une confession religieuse de quitter une localité.
C'est ce qui est interdit. Ou bien d'une ethnie.
Voilà.
Ensuite, il y a le déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé, sauf pour des raisons de sécurité, des civils impliqués ou des impératifs d'ordre militaire, c'est-à-dire le droit international humanitaire importe de faire la distinction en ce qu'on appelle objectif militaire et objectif civil. Donc c'est vraiment garantir l'équilibre entre les principes de nécessité humanitaire et l'atteinte des objectifs strictement militaires, donc conformément au droit international humanitaire. Ensuite, le déplacement utilisé intentionnellement comme méthode de guerre. Par exemple, on voit la déportation, si vous voulez, des populations dans le cadre des conflits. Vous voyez, ça a eu lieu en Seconde Guerre mondiale, etc. Et même souvent, au regard de l'actualité dans certaines régions du monde. Ou autre violation du droit international humanitaire dans des situations de conflits armés. Il y a également le déplacement issu des situations de violence ou de violations généralisées des droits de l'homme. Le déplacement résultant des pratiques néfastes. La Convention définit les pratiques néfastes comme tout comportement, attitude et ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l'intégrité mentale, à l'intégrité physique et à l'éducation. Alfred a insisté un peu sur ce point par rapport à la question du droit à l'éducation. Il y a également les évacuations forcées dans le cadre des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou par d'autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées. Ensuite, déplacement utilisé comme une punition collective. On peut dire, bon voilà, on prend toute une région pour les déplacer, pour les contraindre à aller habiter dans une zone. Ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire à leur terroir d'attache, absolument. Déplacement causé par un acte, un événement, un facteur ou un phénomène d'une gravité similaire, donc à tout ce que je viens de citer, et qui soit non justifié par le droit international, en particulier les droits de l'homme et le droit international humanitaire.
Merci à vous, monsieur le magistrat Barry Mamman Lawal. Je rappelle justement donc que l'État du Niger s'est inspiré de cette convention de Kampala de 2009 pour pouvoir élaborer sa loi 2018-74 du 10 décembre 2018. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum, partie dans laquelle nous allons nous intéresser à l'état des lieux de la situation des personnes déplacées au Niger. Alors, M. Alfred Goubagué, président du Raza Press DHDH, d'abord, comment ces personnes déplacées internes sont-elles prises en charge en République du Niger?
Ok. Donc, s'agissant de la prise en charge de ces personnes, quand des personnes sont déplacées d'un village à un autre, ces personnes sont dans le désarroi, elles ont des besoins vitaux, des besoins indispensables, les premiers besoins, si on peut le dire. Donc, tout tourne autour de, si vous voulez, la couverture de ces besoins. Et tout à l'heure, vous avez bien fait de rappeler que souvent, l'État peut être débordé et n'arrive pas seul à couvrir en charge. Je pense que la loi 2018 a donné la solution pour faire face à cette situation. C'est en ce sens que l'article 17 dispose que l'État a l'obligation de porter assistance aux personnes déplacées internes dans le respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité, etc. À cet effet, l'État évalue l'évolution des besoins de ces personnes déplacées internes. On dit également que l'État, en coopération avec les organisations internationales ou agences humanitaires internationales, fournit cette aide. Et cet article continue en disposant qu'il fournit aux personnes déplacées internes l'assistance humanitaire adéquate et l'accès aux services sociaux de base. Maintenant, en cas d'insuffisance des ressources disponibles, l'État peut faire recours à l'assistance des organisations internationales et des agences humanitaires nationales, internationales, des organisations de la société civile et tout autre acteur public ou privé. Donc l'État, je pense, a compris que...
S'il est débordé, il peut appeler à l'aide humanitaire.
Tout à fait.
Comme on l'a déjà constaté.
Seul, il ne peut pas. Et je pense que l'histoire nous a montré les exemples, les besoins ou les types d'assistance donnés de tout le temps aux personnes déplacées internes c'est vraiment les biens de première nécessité. Vous avez les nattes, vous avez l'eau potable, vous avez
l'alimentation, la nourriture,
vous avez un toit avec les huttes là qu'ils font, avec les bâches, etc., des couvertures, etc. Donc ce sont les besoins vraiment fondamentaux dont les personnes déplacées internes ont besoin en premier lieu, en dehors justement des autres besoins dont on a parlé, tels que ceux relatifs aux documents d'état civil, ceux relatifs à la sécurité, etc.
Merci à vous, M. Barry Maman, magistrat. On voit alors qu'il y a nécessité de respecter donc la dignité humaine qui est sacrée de par même la Constitution. Et les personnes déplacées internes ont également cette dignité qu'il faut leur reconnaître. Mais vers qui une personne déplacée interne doit s'orienter lorsqu'elle arrive dans une localité?
Quand elle arrive dans une localité, il y a déjà les structures qui sont en charge de la question, notamment, comme l'a dit Alfred, ça peut être les structures étatiques, d'abord les autorités locales. Généralement, c'est une question, si on peut le dire, dans un premier temps de souveraineté nationale. C'est-à-dire que lorsque l'État n'arrive pas, aucun État, souvent ça arrive, il y a des difficultés, l'État fait appel, mais la première personne ou les premières autorités à contacter, les premières personnes à contacter, c'est les autorités locales qui peuvent maintenant orienter la personne en fonction du niveau et de l'assistance disponible.
Donc s'il y a des problèmes, ils doivent expliquer leurs problèmes aux autorités locales. Ça peut être le maire, le préfet, c'est ça.
Et il y a même des structures un peu, comme vous voyez, en région ou même à Niamey, qui s'occupent spécifiquement, c'est-à-dire des démembrements de l'État qui viennent en aide à des personnes déplacées dans des situations pareilles.
Alfred Goubadien, président du RASAPRES DHDH, quelles sont les difficultés visibles au Niger en tant qu'acteur du droit international humanitaire dans le cadre de la promotion des droits des personnes déplacées internes?
Les difficultés qu'il y a vraiment sont des difficultés financières, les capacités logistiques de l'État pour prendre en charge ces personnes. Vous voyez ailleurs dans des pays développés, quand il y a ce genre de situation-là, rapidement l'aide arrive, les personnes sont prises en charge, mais ici chez nous, on les fait avec les moyens de bord. Souvent, les besoins ne sont pas vraiment couverts à la hauteur des attentes ou bien de ce qu'il faut faire. Mais il y a un minimum vital qui est fait. L'autre côté aussi, on peut parler des défis sécuritaires. Aujourd'hui, la question est sur toutes les lèvres. Et je pense que là également, l'État du Niger est en train de prendre des dispositions idoines pour assurer la protection des personnes déplacées internes. D'autant plus que l'État lui-même est conscient qu'il y a des obligations qui pèsent sur lui. Donc, je pense que ces défis-là sont sur la table et je pense que des solutions sont en train d'être trouvées pour pouvoir essayer de prendre en charge véritablement les PDI.
Merci. Terminons avec la dernière partie de ce forum et c'est pour voir avec nos invités comment atténuer les violations des droits humains dans les situations de déplacement interne forcé au Niger. À ce niveau, M. Barry Maman, comment se fait la prévention des déplacés internes? Est-ce que la convention de Kampala de 2009 a prévu des solutions à ce niveau?
La convention, elle prévoit des dispositions générales. Mais l'application revient à chaque État en fonction de la politique qu'il mène. Au Niger, on a déjà la protection des personnes déplacées ou bien des droits de l'homme. C'est déjà consacré, si vous voulez, dans la Constitution, parce que qui fait de la personne humaine sacrée et inviolable, dont l'État a l'obligation absolue de protéger. Et l'État, conscient de cette responsabilité, prévoit. Niger, on a un ministère, c'est-à-dire de catastrophes naturelles. Cela s'inscrit dans la droite ligne de cette politique. Maintenant, comment prévenir? Il y a beaucoup d'aspects. Mais on peut dire que ça commence par le respect des droits humains d'une manière générale. Le respect des droits fondamentaux, l'assistance aux personnes, la protection, qui pose beaucoup de défis, comme l'a rappelé Alfred. Et surtout, prévenir aussi les situations d'insécurité. Heureusement, Dieu merci, l'État
du Niger. Il y a un lien entre question de l'insécurité et les déplacements.
Absolument. Moi, je salue au passage aussi l'effort de l'État du Niger par rapport aux déplacés d'Anzourou, dont les dispositions ont rapidement été prises
et
pour permettre leur retour sous la protection des forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. C'est absolument à mettre à l'actif des autorités nigériennes.
Dans la région de Diffa également, on a le retour effectif de beaucoup de déplacés internes.
Donc il y a des politiques qui sont mises en œuvre par rapport à ces genres de questions.
C'est c'est à encourager, vous pensez?
Absolument. Mm-hmm. C'est à saluer, c'est à encourager. Ce sont des efforts qui sont notables, même si ce n'est pas assez suffisant, mais quand même, il y a déjà un début, c'est salutaire. Mais ça vient avec le temps, vous savez. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une solution immédiate tout de suite. Mm-hmm. Ce n'est pas comme une baguette magique ou quelque chose comme ça. C'est des prévisions et souvent, c'est des situations qu'on appelle des cas de force majeure. Mm-hmm. C'est-à-dire des événements imprévisibles, irrésistibles, etc., etc., mm-hmm. auxquels il va falloir être préparé pour faire face. Et l'État est en train de prendre toutes ces mesures pour y faire face. Et aussi, avec l'appui des partenaires humanitaires, tout à l'heure, je le rappelais d'abord, c'est une obligation première de l'État parce que c'est une question d'abord de souveraineté nationale. Mm-hmm. Mais l'État aussi, en cela, il peut faire comme la loi le dispose, faire appel aussi à des partenaires pour aider dans ce sens.
Merci à vous.
Merci.
Monsieur Bagui Maman, Alfred Goubagé, président du Raza Press DHDH, quelles sont les mesures d'urgence que l'État et les acteurs du monde humanitaire sont appelés à prendre pour éviter d'avoir trop de déplacés internes dans un pays?
Merci beaucoup. Je suis d'accord et parfaitement d'avis avec ce que Mbari a dit tout à l'heure. Effectivement, quand on regarde, il reviendra à l'État au niveau interne de prendre des dispositions afin de prévenir le déplacement des personnes. Et c'est pourquoi, dans la loi 2018, l'État, ou bien un certain nombre de mécanismes ont été prévus pour éviter justement ce déplacement. Mm-hmm. Quand vous regardez au niveau du chapitre 2 de cette loi, il est question de la prévention des déplacements internes. Et l'article 4 dispose que toute organisation, tout organisme ou tout individu intervenant dans la prise en charge des personnes déplacées internes prend des mesures pour lutter contre les facteurs de nature à créer ou à favoriser le déplacement interne des populations. Maintenant, pour aller plus au fond, l'article 5 dispose que l'État élabore, justement dans le sens de la prévention, l'État élabore des programmes de formation et de sensibilisation sur les causes et les conséquences du déplacement interne et fournit des moyens de prévention, de protection et d'assistance aux personnes déplacées internes. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a pas mal de séminaires, d'ateliers, de réunions qui sont faites dans le sens de prévenir justement le déplacement. La sensibilisation également est un autre aspect très important qui permet, parce que quand on sensibilise mieux, on peut réduire les risques de déplacement des personnes. On a parlé de la question des conflits. Quand aujourd'hui, des séances de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation sont faites pour éviter la production ou bien l'apparition des conflits, cela peut diminuer ou bien peut atténuer le risque de déplacement des personnes. Et l'article 7 dispose qu'en cas même de catastrophe naturelle d'origine humaine, l'État prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques de déplacement interne. Et à cet effet, toutes les institutions publiques prennent en compte les facteurs de risque et de catastrophe dans leur programme de développement. Mmh. Donc, il y a autant de... En tout cas, c'est pour dire qu'il y a tout un programme étatique qui est mis en place de concert avec toutes les structures et les institutions qui interviennent dans la prise en charge de ces personnes afin de prévenir les déplacements des personnes au niveau national.
Il y a même un cadre institutionnel dans lequel l'État travaille pour garantir ces droits des personnes déplacées internes en République du Niger.
Justement. Donc, au niveau de cette loi-là, nous avons deux organes qui ont été prévus au niveau de l'article 26. Il s'agit du comité de coordination nationale et d'assistance aux personnes déplacées internes pour faciliter la coordination et les prises de décisions au sein du gouvernement avec les institutions nationales des droits de l'homme, les membres de la société civile, les organisations, les agences humanitaires nationales et internationales. Mmh. Et ensuite, il y a un deuxième organe qui est appelé Observatoire national. Mmh. Le premier, c'est un comité de coordination nationale qui réfléchit et qui donne des orientations au gouvernement dans le sens de la prise en charge des PDI. Et le deuxième organe institutionnel qui a été prévu, c'est un observatoire national de coordination et de prévention pour prévenir tous les facteurs susceptibles d'entraîner les déplacements des personnes à l'intérieur.
Ça, c'est ce que prévoit la loi.
Mais
est-ce que ces organes sont fonctionnels à l'heure actuelle?
J'aurais dû même tout à l'heure rappeler cela parmi les défis. Mm-hmm. Donc, c'est des organes qui sont prévus, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ces organes ne sont pas encore effectifs. Parce que le 12 août, justement, lors de l'anniversaire de la Convention de Genève, cette question a été évoquée sur ces cadres institutionnels quant à leur existence ou bien leur opérationnalisation. En tout cas, c'est important, si ce n'est pas encore fait, que l'État puisse vraiment faire en sorte que, oui, créer les conditions pour que ces cadres-là soient opérationnels.
Merci à vous, M. Barry Mamanlawol. Vous êtes magistrat. Quel est votre avis sur comment réussir à assurer une bonne protection et faire en sorte que chaque personne déplacée interne arrive à bien jouir de ses droits en République du Niger?
Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est une question difficile, mais ça dépend de l'appréciation que chacun peut avoir. Mais moi, je pense que du moment où il y a déjà des lois, des textes qui sont en vigueur, qui ont prévu cette protection, c'est juste l'application de ces textes, la mise en œuvre effective et surtout également l'opérationnalisation, comme l'a dit Alfred, des institutions, c'est-à-dire chargées d'élaborer des politiques et pour amener, éclairer l'action gouvernementale dans ce sens. Donc je pense que les autorités sont conscientes de tous ces défis que cela pose et que des mesures seront prises, sont en train d'être prises pour améliorer les conditions de vie des citoyens et puis éviter le maximum de conflits. Mais cela passe aussi par une éducation, une sensibilisation des populations, des facteurs, surtout de la jeunesse. Parce que souvent au Niger, les déplacements sont le fait des groupes armés qui agissent. Et parmi ces groupes armés, nous avons des jeunes Nigériens qui ont pris des armes comme d'autres Nigériens qui se sont fait enrôler dans des groupes terroristes et qui viennent causer du tort à leurs frères. Il est important d'appeler ces jeunes à la raison, de les sensibiliser, c'est-à-dire tout ce qu'ils posent comme acte, c'est contre leurs propres frères et qu'ils sont l'objet d'utilisation de la part des groupes terroristes vraiment à des fins inavouées. Même si on prétexte souvent la religion, ou etc., cela n'a rien à voir avec la religion, parce que nulle part il n'est inscrit dans les préceptes religieux de prendre les armes contre son pays, porter atteinte à la vie de ses frères, etc., etc. Donc il faut sensibiliser les jeunes, et aussi la sensibilisation, au-delà de la sensibilisation, prévoir aussi des mécanismes, c'est-à-dire pour lutter contre le chômage. Parce que l'oisiveté, le désœuvrement sont sources que ces groupes extrémistes, violents, terroristes, utilisent. Parce que la plupart des jeunes qui rejoignent ces groupes, généralement, ne le font pas par conviction, mais souvent, deux fois, pour des raisons économiques ou sociales, etc. Donc l'État, en tout cas, a compris cela, train de prendre des mesures, mais moi j'appelle au renforcement de ces politiques pour sensibiliser, puisqu'on dit mieux vaut prévenir que guérir.
Bien sûr.
Merci.
Merci à vous, Monsieur Barry Maman. Il faut dire justement qu'il peut arriver à toute personne d'être déplacée interne. Parfois, les personnes qui se déplacent ne l'ont pas voulu. Ça leur est arrivé. Il est donc de l'obligation de tous les acteurs énumérés de leur assurer leurs droits, comme ça se doit. Donc, nous avons même des sanctions, M. Alfred Goubaye, des sanctions pénales par rapport aux infractions à l'encontre des personnes déplacées internes au Niger. Quelles sont ces infractions et les sanctions prévues?
Justement, dans la loi 2018, des sanctions ont été prévues en cas de violation des droits des personnes déplacées internes. Et c'est en ce sens que l'article 30 de cette loi dispose qui est passible d'une peine de 15 ans à 30 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 à 5 millions de francs CFA. Quiconque restreint le droit à la libre circulation des personnes déplacées internes à l'intérieur et à l'extérieur de leur zone de résidence. Quiconque recrute des enfants en situation de déplacement interne, les oblige ou leur permet de prendre part aux hostilités. Quiconque abuse et exploite les enfants déplacés, quiconque recrute de force des personnes déplacées internes, kidnappe, enlève ou les prend en otage, se livre à l'exploitation sexuelle ou toute autre forme d'exploitation sexuelle et à la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants déplacés internes, est passible d'une peine de 15 ans à 30 ans d'emprisonnement et d'une amende de 3 à 7 millions de francs CFA, quiconque déplace des personnes sur la base des politiques de discrimination raciale ou d'autres pratiques analogues visant ou résultant en la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population, quiconque déplace des civils individuellement ou en masse dans les situations de conflit armé, à moins que la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent, conformément au droit international humanitaire. Quiconque cause des évacuations forcées en cas de catastrophe d'origine naturelle ou humanitaire ou pour d'autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité ou la santé des personnes touchées. Donc, vous voyez, la peine, je parle sous le contrôle du magistrat, il est mieux placé que moi pour nous parler des peines. Donc, oui, vous avez une peine de 15 à 30 ans. Et donc, vous êtes dans cette fourchette-là, vous avez en face...
Ça veut dire que c'est des infractions qui sont vraiment extrêmement graves. Un mot par rapport à ces infractions pour terminer, M. Barry Maman.
Alfred a déjà rappelé les dispositions de la loi. Donc, vous voyez, on sent que la loi... criminalise l'utilisation, le recours, les violations, si vous voulez, d'une manière générale, des droits des personnes déplacées. Pourquoi cela? Parce que ce sont des personnes qui sont souvent dans une situation de vulnérabilité, parce qu'ils sont vulnérables pour avoir...
Ils n'ont pas de moyens pour se défendre et
oui,
tout ça.
Quelqu'un qui quitte son terroir d'attache sur la base d'une contrainte, c'est-à-dire qui peut être liée... à des situations de conflit
pour
ou de catastrophe.
Pour les femmes, on a parlé de viol, d'exploitation sexuelle, tout
absolument,
ça.
Absolument, traite de personnes, il y a toute une panoplie. Et à cela, sans préjudice d'application d'autres dispositions, parce qu'il y a des dispositions également...
Pour d'autres infractions
oui, qui sont
peuvent
complémentaires,
être
oui,
connexes, bien
par
sûr.
Par exemple, il y a l'ordonnance de 2010-86 sur la traite des personnes, vous voyez, qui réprime la traite des personnes, c'est-à-dire l'exploitation par la contrainte, etc., des personnes qui se trouvent souvent dans des situations pareilles.
On peut trouver aussi des infractions moins graves, telles que les CBV, coups et blessures volontaires, dans le code pénal.
Oui, l'arsenal juridique est très fourni par rapport à toutes ces questions. Et en fonction des faits, les autorités de poursuite donnent une qualification appropriée. Donc, ça appartient, en cas d'infraction, aux autorités maintenant compétentes de qualifier l'effet de l'espèce au regard des dispositions de la loi.
Merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème la situation des déplacés internes au Niger. Quelle assistance et protection juridique pour un meilleur respect de leurs droits? Nous avons compris que les personnes déplacées internes ont beaucoup de droits. Ces droits sont prévus dans beaucoup d'instruments juridiques. Il s'agit notamment de la loi numéro 2018-74 du 10 décembre 2018. 2018 relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes, mais également de la convention de Kampala de 2009 sur les déplacés internes à l'intérieur d'un pays, entre autres. Il y a même des sanctions pénales prévues par la loi pour les infractions à l'encontre des personnes déplacées internes au Niger, comme ont eu à l'expliquer nos deux invités. Nous étions en compagnie de Alfred Goubagué, il est juriste et président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Raza Press DHDH, et de M. Barry Maman Lawol, il est magistrat. Merci d'avoir répondu à nos questions, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Degi pour la présentation de ce forum à la technique Seynisaka. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre une autre thématique du forum de Studio Kalangou. Excellente soirée à tous et au revoir.